Chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers amis, bienvenue pour cette nouvelle partie de notre série de lectures qui a pour thème « Le sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth ». Les enseignements que Jésus de Nazareth nous a donnés dans son sermon sur la montagne comprennent l'amour pour Dieu et pour le prochain, la réconciliation, le pacifisme et la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? Et comment y parvenir? C'est entre autres ce que nous allons découvrir dans l'émission d'aujourd'hui. Dans cette série, nous lisons différents passages d'un évangile apocryphe, c'est-à-dire qui n'est pas contenu dans la Bible, et ensuite les explications données par le Christ de Dieu qui approfondit aujourd'hui son enseignement du sermon sur la montagne à travers Gabriel, la prophétesse et messagère du royaume éternel. Ces textes se trouvent dans le livre « Ceci est ma parole, Alpha et Oméga », la révélation du Christ que connaissent les véritables chrétiens du monde entier. Nous commençons cette lecture par un passage intitulé « Trouver le positif dans le négatif ». Voici ce qu'on peut lire dans le texte de l'Évangile. Car si vous pardonnez leurs péchés à vos prochains, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne leur pardonnez pas leurs péchés, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Aussi, quand vous jeûnez, n'ayez pas l'air meurtri comme les hypocrites, car ils prennent la mine de ceux qui jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Et je vous le dis, vous ne trouverez jamais le royaume des cieux si vous ne vous distanciez pas du monde et de sa cruauté. Vous ne verrez jamais le Père céleste si vous ne respectez pas le sabbat et continuez à amasser avidement des richesses. Mais si tu jeûnes, coiffe-toi et lave ton visage proprement, pour ne pas te mettre en valeur devant les gens en jeûnant. Et l'un saint, qui voit ce qui est caché, te montrera sa reconnaissance aux yeux de tous. »
À ce sujet, le Christ de Dieu révèle ceci, je cite, « Le commandement de pardonner et de demander pardon demeurera valable jusqu'à ce que tout ce qui ne correspond pas aux lois éternelles soit expié et mis en ordre. Ce commandement fait partie de la loi des semailles et des récoltes. Il cessera d'être valable lorsque tout ce qui est de nature humaine sera acquitté et que toutes les âmes seront redevenues des êtres spirituels purs, immaculés. » Jusque-là, le commandement « Pardonnez et vous serez pardonnés » restera valable. Si vous demandez pardon à votre prochain et qu'il vous pardonne, votre Père au ciel vous a aussi pardonné. Mais si vous demandez pardon et que votre prochain ne vous pardonne pas parce qu'il n'y est pas encore prêt, votre Père éternel ne pourra pas non plus vous pardonner. Celui qui a péché contre son prochain doit en obtenir le pardon. Ce n'est qu'alors que Dieu efface le péché. L'Éternel juste aime tous ses enfants, même ceux qui n'ont pas encore la force de pardonner. S'il pardonnait à celui ayant incité son prochain à pécher et ne pardonnait pas à celui qui a été entraîné dans le péché et ne peut pas encore pardonner, où serait alors la justice de Dieu? Tous deux ne pourront entrer dans les cieux que lorsque leurs péchés seront mis en ordre, effacés. C'est pourquoi faites attention à ce qui sort de votre bouche et veillez à ce que vos actes correspondent à la loi éternelle, c'est-à-dire à ce qu'ils soient désintéressés. En effet, il suffit d'un seul instant pour enfreindre la loi divine en parole ou en acte, mais le pardon, lui, peut se faire attendre très longtemps. Si vous avez demandé pardon à votre prochain, mais que celui-ci n'est pas encore prêt à vous pardonner, la grâce de Dieu augmentera en vous. Elle vous entourera et vous portera, sans que Dieu toutefois ôte de vous ce qui n'est pas encore mis en ordre. La miséricorde de Dieu s'intensifiera également dans votre prochain, afin de le conduire, dans le respect de son libre arbitre, à reconnaître plus rapidement ses fautes, à s'en repentir et à vous pardonner. C'est seulement lorsque tous ceux contre lesquels vous avez péché vous ont pardonné, donc que tout est mis en ordre, effacé, que vous pourrez entrer dans les cieux, parce que Dieu aura alors transformé en force divine tout ce qui était de nature humaine en vous.
Le Christ de Dieu poursuit sa révélation en disant « Dieu est omniprésent. C'est pourquoi il agit aussi dans la loi des semailles et des récoltes. Dans tout ce qui est négatif se trouve aussi le positif, Dieu, la loi éternelle. Lorsqu'une personne reconnaît ses fautes et péchés et s'en repent, les forces positives qui se trouvent en eux deviennent actives et l'encouragent à mettre en ordre avec la force du Christ les péchés dont elle a pris conscience. Comprenez la loi de Dieu. Elle est vie éternelle, d'éternité en éternité. En résumé, tout est contenu en tout. Dans l'infiniment grand se trouve l'infiniment petit, et dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Dans le péché se trouve la force de pardonner, et dans la force libérée par le pardon se trouve l'ascension menant à la vie intérieure, à l'existence éternelle. C'est pourquoi le divin peut agir dans le négatif, ceci lorsqu'une personne demande pardon du fond du cœur, pardonne et ne pêche plus. Cependant, c'est à l'être humain de faire le premier pas en direction de la vie intérieure. Prenez conscience que quoi que vous fassiez, que vous priiez, jeûniez ou fassiez la charité, si vous le faites non pas de façon désintéressée, mais pour être reconnu par vos semblables, vous avez alors déjà reçu votre récompense de la part des hommes. Dieu ne vous récompensera pas. Et si vous jeûnez uniquement pour maigrir, vous ne ferez pas grandir en vous l'esprit du Père. Par contre, une personne qui absorbe la nourriture au nom du Très-Haut et mange sans excès, qui jeûne de temps à autre pour détendre son corps et le purifier, afin que la force de Dieu puisse alimenter comme il le faut toutes les cellules et tous les organes de son corps, une telle personne s'efforce aussi sincèrement d'accepter et d'accueillir en elle la vie qui provient de Dieu, afin de vivre en elle. En même temps, dans la prière, elle voue sa vie à Dieu l'Éternel, afin de, peu à peu, devenir elle-même prière vécue.
Nous lisons maintenant un autre passage du sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth. Ne pleurez pas vos morts. Voici ce qu'on peut lire dans le texte de l'Évangile. Comportez-vous de même lorsque vous pleurez sur vos morts et êtes en deuil, car votre perte est leur gain. Ne faites pas comme ceux qui portent ostensiblement le deuil en pleurant et en déchirant leurs vêtements afin que les autres les voient. Car toutes les âmes sont dans la main de Dieu et tous ceux qui ont fait du bien reposeront avec leurs ancêtres dans le sein de l'Éternel. Priez plutôt pour leur paix et leur évolution. Et soyez bien conscients qu'ils sont dans le pays de la paix que l'Éternel leur a préparé et qu'ils recevront le juste salaire de leurs actes. Et ne maugréez pas comme ceux qui sont sans espoir. Le Christ explique ce passage à travers Gabriel, la prophétesse et messagère de Dieu. Celui qui pleure les morts est encore éloigné de la vie éternelle, parce qu'il considère la mort comme la fin de la vie. Il n'est pas encore parvenu à la résurrection en moi, le Christ. Il compte parmi les morts spirituels. Ne pleurez pas vos morts. Celui qui déplore la perte d'une personne ne pense pas au gain que cela représente pour l'âme qui, dans la mesure où elle a vécu en moi le Christ, entre dans des sphères de conscience supérieures de la vie. En effet, si sa vie sur terre était en Dieu, elle le sera également dans une autre forme d'existence. Prenez conscience que l'existence temporelle dans un corps humain n'est pas la vie de l'âme. L'âme n'est entrée dans la chair que pour une courte période, afin de mettre en ordre et de s'acquitter dans l'existence temporelle de ce dont elle s'est chargée lors de différentes incarnations. La terre n'est qu'un lieu de passage où les âmes incarnées ont la possibilité de mettre en ordre leurs aspects pécheurs plus vite que dans l'au-delà, de l'autre côté des voiles de la conscience, appelées aussi murs de brouillard. Lorsqu'une âme quitte son habit terrestre, ses prochains ne pleurent que l'habit de l'âme, sans penser à l'âme qui l'a quitté. Lorsqu'une âme lumineuse quitte son corps terrestre, elle est accompagnée par des êtres lumineux, invisibles aux yeux des hommes, qui la conduisent dans les domaines de conscience correspondant à la pensée et à la vie de la personne dans laquelle elle était incarnée.
Le Christ explique d'autres aspects concernant ce que vit l'âme après la mort du corps physique. Il dit « Voyez, une âme qui vient de quitter son corps terrestre est encore attirée un certain temps vers les personnes avec qui elle a vécu. Si elle constate que son ancienne parenté pleure son enveloppe terrestre, c'est très douloureux pour elle. Encore proche de la terre, elle ressent parfaitement pourquoi ses proches ne pleurent que son enveloppe terrestre et pourquoi elle n'est pas reconnue en tant qu'âme. C'est la première profonde douleur qu'éprouve une âme après avoir quitté son corps. Car elle voit très bien pourquoi certains la pleurent au lieu de penser à elle dans l'amour et l'unité. Elle découvre les nombreuses pensées égoïstes de ceux qui lui furent proches sur la terre. Elle ne peut pas se manifester à eux, car ils ne la perçoivent pas. Personne n'entend ce qu'elle dit. Personne ne voit ce qu'elle voit. L'âme, elle, perçoit beaucoup de choses. Je vous invite à réfléchir à ceci. Vous lamentez-vous lorsqu'un serpent mu se dépouille de sa peau avant de poursuivre son chemin? Cette image illustre ce qui survient à l'âme. À son décès en tant qu'être humain, elle quitte son enveloppe temporelle et poursuit son voyage. Vous pleurez donc la perte de l'enveloppe terrestre sans penser à l'âme. Celui qui pense à l'âme remercie Dieu d'avoir rappelé celle-ci en son sein, dans la mesure, bien sûr, où elle a mis à profit sa vie pour se rapprocher de lui. Sachez que pour une âme lumineuse, se défaire du corps physique est un gain. Et si vous ne manifestez votre peine de la perte d'un proche qu'en présence d'autres personnes, vous leur jouez la comédie. Car en vérité, vous ne pensez ni à la personne qu'il était, ni à son âme, mais uniquement à vous-même. L'âme le perçoit et se rend compte qu'elle n'a pas été aimée avec désintéressement et qu'elle n'a peut-être vécu que pour satisfaire les intérêts égoïstes de ses prochains.
Le Christ de Dieu apporte d'autres explications. Il dit... Beaucoup d'âmes sont amenées à voir de quelle façon leurs proches vécurent littéralement à travers elles, ce qui les empêcha de se développer en tant qu'être humain et de vivre selon les caractéristiques de leur propre être. Parce qu'elles devaient se plier à la volonté de ceux qui exigeaient d'elles ce qui était dans leur propre intérêt. C'est en découvrant ce qu'elles ont omis de faire durant leur existence terrestre que beaucoup d'âmes décident de se réincarner. Elles retournent alors sur la terre en traversant les voies de la conscience et se retrouvent à nouveau parmi ceux qui vécurent à travers elles. D'autres encore cherchent à vivre sur terre ce qu'elles ne purent y réaliser précédemment en tant qu'être humain. Tant qu'une personne reste liée à ses prochains ou à des choses telles que la propriété, la richesse et le pouvoir, son âme revient sans cesse sur terre dans un nouveau corps humain. Les causes et les motifs conduisant les âmes à se réincarner sont multiples. Par exemple, lorsqu'une âme se rend compte qu'elle est littéralement enchaînée à ses proches par des péchés, souvent elle se résigne et cède au souhait de reprendre un corps. Animée par ce désir, l'âme vit sur le plan de conscience correspondant à ce qu'elle porte en elle. Elle y reçoit des enseignements. On lui explique, entre autres, le pour et le contre d'une nouvelle incarnation. Elle se rendra à l'incarnation lorsque les astres ou ses aspects positifs et négatifs sont enregistrés, c'est-à-dire aussi son futur chemin de vie terrestre, lui indique une voie d'accès à la matière, et lorsqu'un corps humain correspondant à son niveau de conscience est conçu sur Terre. C'est dans cette enveloppe humaine qu'elle s'introduira à la naissance. L'homme qui a engendré le corps et la femme dans laquelle l'embryon a grandi ont attiré cette âme avec laquelle ils ont encore des choses à résoudre ou bien poursuivre avec elle le chemin du Seigneur par le service désintéressé envers leurs prochains. Ne portez pas seulement attention à votre corps, mais préoccupez-vous en premier lieu de l'être incarné en vous et efforcez-vous de faire la volonté de Dieu sans laisser d'autres personnes vous imposer leur volonté humaine. Voyez, même si vous faites la volonté de votre prochain dans le but de préserver une paix extérieure, vous empêchez votre âme et aussi la sienne de se développer comme cela serait souhaitable pour chacune d'elles. Vous vous empêchez mutuellement de remplir les tâches que vos âmes ont apportées en venant sur terre et qui consistent à se purifier et à se libérer du fardeau des péchés éventuellement générés lors d'incarnations antérieures. Celui qui se laisse régenter par les autres, qui donc fait ce qu'ils lui disent, bien qu'il s'aperçoive que cela ne correspond pas à son propre chemin, est littéralement vécu par les autres et passe à côté de sa propre vie terrestre. Il ne met pas à profit ses journées, il est utilisé par ceux à qui il s'est assujetti. C'est pourquoi il ne connaît pas le chemin qu'il devrait suivre sur terre.
Le Christ poursuit sa révélation avec les éclaircissements suivants. Une personne qui lie à elle ses semblables en leur imposant sa volonté est comparable à un vampire qui leur prend leur énergie. Elle ne se connaît pas elle-même et se lie à ses victimes, de même que celui qui se laisse prendre son énergie se lie à son prochain qu'il laisse faire. Dans une autre vie, ou bien en tant qu'âme dans les domaines de l'au-delà, ils seront conduits l'un vers l'autre aussi souvent et aussi longtemps que cela sera nécessaire pour qu'ils se pardonnent mutuellement. Quand deux personnes se lient l'une à l'autre, peu importe qui a lié l'autre et qui s'est laissé lier, elles se sont toutes deux chargées et doivent résoudre entre elles ces liens afin que l'amour et l'unité puissent être rétablis entre elles. Personne ne peut dire « j'ignorais les lois de la vie ». En effet, Moïse vous a donné les 10 commandements qui sont des extraits des lois éternelles. Et si vous les accomplissez, vous ne vous liez pas les uns aux autres, au contraire, vous vivrez en paix les uns avec les autres. Prenez conscience que seul l'amour et l'unité vécus les uns envers les autres montrent à l'âme et à la personne en qui elle est incarnée le chemin menant à une vie supérieure. Dieu, qui est éternellement bon, tend la main à chaque âme et à chaque être humain. Celui qui la prend met à profit sa vie terrestre. Il est conscient de la valeur des journées et est en mesure de les vivre en appliquant les commandements, c'est-à-dire en mettant en ordre ce qu'elle lui montre. Un jour, en tant qu'âme, il cheminera et reposera en Dieu, avec tous ceux qui ont également utilisé leur vie terrestre à bon escient, c'est-à-dire qui ont reconnu et surmonté jour après jour, avec moi, le Christ, ce que la journée leur avait apporté et montré, que ce soit des joies ou des peines. Si vous ne pleurez pas sur vous-même lorsque l'un de vos proches quitte l'enveloppe terrestre, et qu'au contraire, vous vous réjouissez en esprit que son âme, lorsqu'elle était encore en habit terrestre, a pris conscience de sa vie spirituelle et s'y est préparée. Alors, vous prierez avec joie pour votre prochain en vous tournant vers le Père à travers moi, le Christ. Vous rayonnerez des forces d'amour en direction de l'âme qui s'est rapprochée de Dieu, afin qu'elle continue à cheminer vers des domaines plus élevés et qu'elle s'unisse de plus en plus à lui. Une âme ressent les joies et les peines de ses proches. Les âmes ayant quitté l'habit terrestre en moi, le Christ, se sentent unies par moi, le Christ, à toutes celles qui sont encore incarnées sur la terre. La joie qu'éprouve une âme en constatant que ses proches pensent à elle avec amour, la remplit de force. Voyez, des prières d'amour désintéressées procurent à une âme force et vigueur sur son chemin vers le divin. Elle ressent l'unité contenue dans ses prières et en reçoit un surcroît de force. Elle peut alors se défaire plus rapidement des aspects humains qui sont encore en elle et ainsi devenir libre pour celui qui est la liberté et l'amour, Dieu, la vie. Dieu récompense largement toute âme s'efforçant sérieusement d'accomplir sa volonté. Prenez conscience que seul celui qui ne fait que parler de sa foi sans vivre ce qu'il semble croire est sans espoir. En définitive, quelqu'un qui doute ne croit pas à ce qu'il prétend croire, c'est ce qui conduit au désespoir. Chers amis, souhaitons-nous mutuellement que ces éclaircissements profonds sur la vie dans ce monde et dans l'au-delà soient pour nous tous un appel à la vigilance, ainsi qu'une aide pour notre vie sur terre et aussi en tant qu'âme, sur notre chemin de retour vers le royaume éternel, le royaume de Dieu, qui est notre origine et notre patrie véritable. Nous nous réjouirions de vous retrouver pour la suite de cette série de lectures sur le Sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth, où nous aurons la possibilité d'apprendre de nouvelles choses afin de pouvoir suivre en toute liberté ce chemin vers Dieu qui est en chacun de nous. Au revoir et une chaleureuse salutation en Dieu.